Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Opondé.
Retour progressif de la paix à Djougou en Ituri. Selon le gouverneur de province, de nombreux déplacés et ont fui les attaques des assaillants dans ce territoire et gagnent leur village. Retour hier à Kinshasa du Premier ministre après un long séjour en Europe. Bruno Tshibala a dit avoir dissipé des malentendus et des mensonges répandus sur les institutions de la RDC. Dans la seconde partie de cette édition, le dossier, la revue de presse et l'actualité sportive. Bonjour et bon début de semaine à tous. Commençons en Ituri. La vie sociale et économique reprend progressivement au territoire de Djougou avec le retour de nombreux déplacés qui avaient fui les attaques des assaillants dans ce territoire. Certains avaient fui à Bounia et d'autres étaient partis en Ouganda. Un témoignage fait le dimanche à Radio Kapi par le gouverneur de cette nouvelle province qui est revenu le samedi d'une mission d'évaluation à Djougou. Selon Jefferson Abdallah Apenembaka, les marchés sont fréquentés par toutes les communautés. Les activités champêtres ont repris. Toutefois, le gouverneur de province déplore les incendies des villages ainsi que la destruction de certaines infrastructures de base en territoire de Djougou. Il le dit au micro de Delvin Waïsala.
Des déplacés commencent à revenir dans leurs milieux respectifs. Les activités commerciales ou beaucoup de marchés ont commencé à ouvrir. Tous ces marchés-là sont fréquentés par toutes les communautés. Les cultivateurs sont au champ. Un autre constat amer, c'est qu'il y a eu beaucoup de villages incendiés. Les infrastructures sont vraiment détruites.
Comment la province estime accompagner ces retours?
Je crois que ça, c'est la mobilisation que nous sommes en train de faire, des communs accords avec l'accompagnement du gouvernement central et des partenaires. Ça, il faut reconnaître que les partenaires nous sont d'une grande importance. Nous sommes en train de voir dans la mesure du possible, en dehors de la sensibilisation, pour que nos concitoyens rentrent dans leurs milieux respectifs, comment on peut leur allouer des kits de réinsertion, envisager la possibilité de leur donner des moyens ou de mettre à leur disposition des abris de fortune. Comme nous sommes encore dans la phase de discussion avec des partenaires, avec le gouvernement central, je préfère ne pas aller au-delà de ce que je vous dis pour le moment.
Dans la province du Kwilu, 387 finalistes du secondaire déplacés du Kassa à la suite des événements de Kamuina-Sapu, orientés dans des écoles du Kwilu, sont aux abois à un mois de l'examen d'État. L'absence d'une prise en charge des frais d'examen d'État serait à la base des incertitudes qui pèsent en ce moment sur eux. Fabien Kambizi nous en dit plus.
Les études de ces nombreux élèves déplacés identifiés dans les sous-divisions de Kikwit 1 et 2, Gungu 1 et 2, sont prises en charge par les autorités provinciales et certains organismes internationaux. Mais les problèmes se posent pour ce qui est des frais de participation aux épreuves des examens d'État, notamment la dissertation. Malgré les assurances de certains organismes et autorités provinciales, rien n'est fait jusque-là. Ces finalistes du secondaire ne savent à qui s'en remettre pour obtenir rapidement ces frais. Ces élèves déplacés confirment n'avoir toujours pas signé les fiches de l'examen d'État, contrairement à tous les autres finalistes des 6e des humanités, d'où leur inquiétude. Sur terrain, aucune assistance financière ni mesure compensatoire ou d'accompagnement à la province n'est envisagée en faveur de ces élèves à un mois de l'examen d'État. Pour l'inspectrice principale provinciale de l'EPSP Kwilu 1, Petroni Indoulou affirme que son inspection n'attend qu'une solution de la part des autorités provinciales qui leur a avait confié ses enfants. Du côté des autorités provinciales, le ministre provincial de l'EPSP et porte-parole du gouvernement provincial du Kwilu promet de consulter les gouverneurs des provinces pour une meilleure solution en faveur de ces finalistes déplacés du Kassai.
Je reviens au pays plein de vigueur et de volonté pour me remettre au service du gouvernement de la République. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Bruno Tshibala hier soir dès son arrivée à l'aéroport de Ndjili, ici à Kinshasa. Devant la presse, le chef du gouvernement a dressé le bilan de son long séjour à l'étranger. On écoute Bruno Tshibala au micro de Paul Matendo.
Je viens de séjourner dans deux pays de l'Europe occidentale, la France et l'Angleterre. En Angleterre, j'étais invité par un centre des affaires internationales, le Chatham House, qui m'avait demandé de parler de la démocratie et de la stabilité dans notre pays. J'ai abordé ce thème de la manière qui a donné entière satisfaction aux organisateurs. J'en ai profité pour dissiper beaucoup de malentendus et des contre-vérités distillées sur nos institutions et notre processus électoral. Je reviens au pays plein de vigueur et de volonté pour me remettre au service du gouvernement de la République.
Réprobation, déception et perte de confiance en la Cour constitutionnelle de la RDC, c'est en ces mots que se résument les propos des requérants en inconstitutionnalité de la loi électorale après que la Cour les a déboutés lors d'une lecture de son arrêt vendredi dernier. Henri Thomas Lokondo de la majorité présidentielle, Christophe Lutundula de l'opposition et Odette Babandoa, initiatrice aussi de sa propre requête en janvier dernier, ont chacun pour sa part désapprouvé la décision de la Cour constitutionnelle. Billy Yvon Lutumba pour plus de détails.
Les requérants se sont appuyés sur l'article 162 de la Constitution qui garantit le droit à toute personne de saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Avec ce rejet donc, dit Henri Thomas Lokondo, la Cour a signé son arrêt de mort.
La Cour a évité d'aborder le fond parce qu'elle n'avait rien à dire. Et c'est ce que les autres juges ont démontré aux quatre autres juges, que si on ne va pas dans le sens de la requête que les amis ont introduite, on va consacrer la mort de la Cour constitutionnelle, et c'est ce qui est fait.
Dénonçant au nom de son parti la discrimination de la loi électorale et par ricochet la violation de la Constitution, Odette Babandoa, présidente du parti politique Union des Patriotes Républicains, voit des mauvaises élections avec cette Cour constitutionnelle.
Ce n'était pas un arrêt qu'on était là devant un acte judiciaire qu'on était en train de lire. C'était tout simplement une déclaration politique d'une structure politique qui était lue devant nous. Nous déplorons, nous regrettons parce que la violation de la loi est claire, elle est flagrante.
Mort dans l'âme, Christophe Lutundula parle de l'arbitraire face à une telle décision et entrevoit des problèmes sérieux pour l'avenir des élections à divers échelons. Toutefois, chapeau bas donc à ces quatre hauts magistrats de la Cour constitutionnelle qui ont soutenu la requête et qui respectent leur déontologie, la patrie et ses lois soutiennent unanimement ces trois requérants.
Et puis, le président du tribunal de grande instance de Kisangani appelle les nouveaux défenseurs judiciaires à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la promotion de la justice congolaise. Il leur a lancé cet appel samedi dernier après la prestation de serment préalable à l'exercice de leur métier au terme de leurs études universitaires. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de la ville. Les explications avec Godly Vomondo.
Ils sont au total 24 défenseurs judiciaires à pouvoir prêter serment. Parmi eux, deux filles. Ces jeunes gens, issus de différentes universités, avaient réussi au test d'évaluation des connaissances organisé par les autorités judiciaires de cette juridiction. Selon Olivier Mofia, président du TGI Kisangani, ces nouveaux hommes en toge noire doivent obéir à la loi et exercer la défense avec dignité, conscience et indépendance.
Le conseil, c'est d'abord honorer leur profession, être honnête, défendre la loi, et aussi être courageux, il ne faut pas se livrer à une recherche effrénée d'argent. Défendre les clients avec intégrité et avec une bonne moralité.
Les impétrants à leur tour se sont engagés de ne conseiller ou défendre aucune cause qu'ils ne croiraient juste en âme et conscience. Maître Toto Bito Takazadi, nouveau défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Kisangani.
Nous allons défendre tout le monde, même celui qui n'a pas d'argent, parce que nous avons aussi la mission de plaider pro deo. Comme étant débutant, nous allons aussi commencer à défendre ceux qui n'ont rien gratuitement pour l'amour du prochain.
Avant de les congédier, le président du TGI a émis le vœu de voir les nouveaux arrivants continuer à bénéficier d'autres formations. Ceci pour renforcer leurs capacités et défendre correctement leurs clients. Kisangani, Godly Vomondo, Radio Okapi.
Direction Likasi, dans le Haut-Katanga, où la délégation syndicale locale de la SNCC dénonce le vol d'environ 200 km des fils caténaires sur un total de 860 km du réseau électrifié en l'espace de 3 ans par des inciviques, dont des hommes en uniforme. Ces fils servent à l'alimentation en courant des locomotives. La délégation syndicale note que les entreprises minières achètent des fils caténaires qui sont en cuivre pur pour les fondre et obtenir des lingots. C'est confiant ce lundi à Radio Capi, le président de la délégation syndicale locale de la SNCC, Chéli Kassi, parle des conséquences qui découlent de ces cas de vol. Tambwe Kibondo au micro de Paul Mounanga.
Il y a maintenant plus ou moins 200 km de fils qui sont déjà coupés et volés à de différents endroits et gares. Et cela empêche même les locomotives électriques de circuler de Lubumbashi à Likasi, de Likasi à Tenke, de Tenke à Kolosi et de Kolosi à Mouchacha. Les conséquences sont multiples. Hein. Nous avons la mise en chômage des techniciens œuvrant dans le domaine des locomotives traction électrique et ateliers caténaires. Nous avons l'immobilisation forcée des locomotives électriques. Nous avons l'augmentation des dépenses en achat de carburant, car nous sommes contraints d'utiliser les locomotives diesel même sur les réseaux électrifiés. Donc ce sont des dépenses ostentatoires que nous sommes en train de subir forcément. Toute la population habitant le long de la voie ferrée est privée d'électricité. Et cela crée plusieurs méfaits sur le plan social. Il y a des zones de santé qui sont installées dans des gares telles qu'à Luambo, Kapoloe, Mulungwishi. Toutes ces zones là-bas de santé sont en obscurité. Il y a les internats par exemple à Mulungwishi, un peu partout. Il y a les meuniers qui utilisent même le courant en caténaire.
La délégation syndicale a adressé un mémorandum au gouverneur du Haut-Katanga et du Lualaba pour leur demander de sauvegarder ces biens de la SNCC, mais Radio Okapi n'a pas pu joindre les deux gouverneurs. Au Nord Kivu, la gestion des ressources halieutiques du lac Édouard par les pêcheurs congolais et ougandais s'est clôturée le week-end à Kassindi-Loubirira, en territoire de Béni. L'objectif de cette rencontre était de contribuer à la promotion de la sécurité des pêcheurs de deux pays, mais aussi de proposer aux deux gouvernements des règles de co-gestion de la pêche et de respect des zones transfrontalières de pêche. Mais quelles sont les mesures urgentes mises en place par les deux délégations pour la co-gestion des ressources halieutiques du lac Édouard? Josué Moukoura, secrétaire de la Fédération des comités des pêcheurs congolais, explique au micro de Gabriel Waminia.
En attendant que la loi bilatérale soit vulgarisée, nous voulons ce que le lac Édouard, dans nos recommandations, qu'il y ait des patrouilles conjointes entre Ougandais et Congolais, mais cela dépend des pouvoirs centraux. Alors, en attendant que les patrouilles soient conjointes, il faut que chaque armée se détermine pour défendre l'intégrité territoriale de leur pays et en garantissant aussi la circulation libre aux pêcheurs qui œuvrent sur le lac Édouard et même tous ces gens-là qui interviennent dans la filière poisson. Plus nous partageons les mêmes ressources halieutiques du lac Édouard, cela aussi va contribuer à la sécurité des communautés locales dans la circulation. Et il y a toujours développement si l'homme se sent libre.
Dans le sud Ubangi, les pygmées et les populations locales de Dongo, de souches bantoues et soudanaises sont appelées à s'impliquer dans la gestion responsable de leurs forêts. C'est la principale résolution de l'atelier que vient d'organiser à Dongo dans les territoires de Kungu, la dynamique du groupe des peuples autochtones et le conseil d'appui à la gestion durable des forêts tropicales avec le financement de l'ONG norvégienne Rand Forest Foundation. Le point avec Dominique Colombi.
Le territoire de Kungu est le seul qui abrite une importante forêt tropicale dans le sud Ubangi. Les autres territoires de Libenge, de Bujala et de Gemena sont plutôt dominés par des savanes et des forêts de galeries le long des cours d'eau. Mais cette forêt de Kungu est menacée par une importante activité d'exploitation du bois, tant par des industriels que par des artisanaux, ce qui importe l'implication des populations locales à la gestion responsable de cette forêt. Pour ce faire, la dynamique du groupe des peuples autochtones et le conseil d'appui à la gestion durable des forêts tropicales a organisé 3 semaines durant l'atelier de renforcement des capacités à l'intention des leaders communautaires du secteur de Dongo, parmi lesquels des leaders des pygmées Bambinga et ceux des populations locales d'origine bantou et soudanaise. À l'issue de cet atelier, 8 villages des populations bantou et soudanaise et 4 autres des pygmées Bambinga sont ciblés comme lieu d'exécution du projet intitulé Action à Télévision TVA, un projet qui court jusqu'en 2020. Mbandaka, Dominique Wolombi Mungapangi, Radio Okapi.
Rendons-nous dans le Congo central où le secrétaire général de l'association dénommée Jeunesse responsable du Congo central déplore les événements malheureux survenus le 30 mars dernier à l'Assemblée provinciale du Congo central. Un groupe des bandits appelé communément Kuluna qui voulait entrer à l'Assemblée, assister à l'ouverture de la nouvelle session, a été empêché par la police. Il y a eu échauffourée entre les deux parties. Bilan des vitres des véhicules cassées et des blessés. Et par rapport à ces événements, Murphy Loutété demande la démission du gouverneur des provinces suite à son implication dans ces événements. Ces leaders du Congo central invitent la population de Matadi au calme et de ne pas répondre aux provocations. On écoute Murphy Loutété, secrétaire général de la jeunesse responsable du Congo central, joint par Guy-Roger Nyampala.
Je salue leur courage et leur maîtrise, mais nous leur demandons de tirer conséquence de ces actes. Et on va devenir pour les députés professionnels qui doivent sanctionner le gouverneur son temps par émotion, sans autre forme de procès, avant même de quitter sa réagisse par notre vote. Le gouverneur lui-même, le gouverneur son temps, c'était une forme de déception. Ce qui s'est passé au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central est inadmissible. Rétriquer le bandit à vivre en déchet de perdre, et heureusement, je félicite le secrétaire permanent Chazar et du PPRB qui a donné des instructions précises aux camarades qui n'ont pas dit les membres du secrétariat permanent à fixer l'opinion dans la situation internationale que le PPRB n'a pas été impliqué de près ou de loin à ces actes. Ce sont des actes de barbarie qui veulent garder les lois du secrétariat dans ce pays. Nous demandons au gouvernement de démissionner par respect, par honneur. Et à la population du Congo central, nous allons continuer à les appeler au calme.
De son côté, un conseiller du gouverneur Jacques Mbadou a répondu ce lundi sur Radio Okapi qu'un avocat qui se respecte ne fait pas des allégations sans preuve. Aimé Mwaka, conseiller de Jacques Mbadou, a dit qu'il n'y a pas de motif de démission car il s'agit d'un plan qu'ils ont concocté pour faire échouer la promesse du chef de l'État sur la construction du stade Lumumba au profit de la population matadienne. L'objectif est de semer l'insécurité au Congo central, plan qui a échoué selon lui.
Actualité Afrique Monde.
Au moins 4 migrants sont morts hier dimanche en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Espagne depuis Tanger au Maroc. Les naufrages continuent d'être en hausse en Espagne. Les 4 corps ont été récupérés dans les eaux du détroit de Gibraltar. Et selon l'unique survivant secouru, 12 personnes étaient à bord de l'embarcation lorsqu'elle est partie de Tanger hier dimanche matin. L'embarcation des fortunes a perdu des occupants au fil de la traversée. Lorsqu'elle s'est retournée, ils n'étaient plus que 3, dont un seul a pu en échapper. Notez qu'entre le 1er janvier et le 25 mars dernier, près de 500 migrants ont perdu la vie en Méditerranée, dont 120 en tentant de gagner l'Espagne par la mer, rapporte l'Organisation internationale pour les migrations OIM.